Les festivités commémoratives de la Journée internationale de la femme, du 18 au 21 mars 2010, Radio Capi et la section Genre de la MONU vous proposent, en direct de la FIKIN, la première édition kermesse Paix et Égalité des Chances dans un Congo cinquantenaire. À l'affiche, animation culturelle, exposition de produits par les femmes, représentation théâtrale, exhibition des danses folkloriques et autres. Radio Capi, la radio service de la femme.
Encore une fois, docteur Diabéno Tombé, bonjour.
Bonjour, bonjour, voilà. Monsieur le journaliste.
Avec vous, vous êtes urologue à l'hôpital général de Kinshasa. Nous parlons du cancer de la prostate. C'est quoi, docteur?
C'est-à-dire qu'avant de parler même du cancer de la prostate,
oui,
on peut parler de la prostate tout simple.
Oui.
Donc la prostate, c'est un organe qui est situé juste devant la vessie. Il y a un organe donc endocrine.
Oui.
Tout homme qui naît, il a sa prostate. Tout homme. Mais avec l'âge, cet organe augmente de volume.
Oui.
Ça, on ne va pas entrer dans les détails, c'est lié donc à certaines hormones, dont l'hormone principale est justement la testostérone.
Oui.
Donc, avant de parler des cancers, il faut dire qu'il y a avant tout la prostate.
Oui.
La prostate augmente de volume. Et comment on peut sentir qu'il y a déjà des problèmes au niveau de cette augmentation de volume de la prostate?
Et d'abord, docteur, quel est le rôle de cet organe, la prostate?
C'est-à-dire que la prostate joue un rôle même dans la reproduction et dans la lutte antibactérienne.
Oui.
En effet, quand un homme éjacule,
oui,
dans le sperme, il y a au moins 30% d'éléments qui proviennent
de la prostate.
De la prostate.
Ok. Hein?
Donc, la prostate joue un rôle dans ce cadre-là. Et puis, parmi ces éléments, on trouve par exemple le zinc, qui joue un rôle, comme on dit, antibactérien.
Oui. Hein,
le zinc. Il y a d'autres éléments qui sont là, tels que la séménine, qui empêche que le sperme puisse se solidifier. Donc, on trouve aussi, tels que le glucide, qui donne donc de l'énergie aux spermatozoïdes. En fait, la prostate joue un rôle, effectivement, dans la reproduction.
Et dans la reproduction et dans la lutte contre les bactéries.
C'est ça.
Alors, vous dites qu'à la longue, cet organe augmente de volume.
Oui, ça dit qu'avec l'âge, souvent c'est quand on s'approche. D'ailleurs, il est dit, c'est en fait à partir de l'âge de 35 ans que la prostate commence progressivement à augmenter de volume.
Pour quel motif là? C'est une anomalie ou bien
c'est pas une anomalie, c'est lié, comme je vous ai dit, à certaines hormones. Hein. Une des hormones principales, c'est la testostérone, hein, qui est produite au niveau de testicules.
Oui. Hein.
Et pour que cela se passe, bon, il y a tout un schéma là, on parle de l'hypothalamus qui sécrète une hormone LHRH qui va stimuler l'hypophyse, qui va sécréter une hormone LH,
c'est tout un cheminement. Oui.
Et en fin de compte,
donc déjà à l'âge de 35 ans, cet organe commence
là, on ne s'en pose encore là, mais il est dit que c'est à partir de cet âge que de façon donc déjà microscopique, il commence à y avoir déjà augmentation de volume de la prostate. Mais c'est à l'âge de 50 ans, on trouve déjà la moitié des hommes qui peuvent avoir déjà une augmentation de volume de la prostate. Et à l'âge de 60 ans, on dit c'est jusqu'à 60-75% d'hommes peuvent avoir une augmentation de volume. C'est-à-dire que cet organe qui est situé juste devant la vessie augmente de volume. Qu'est-ce qui arrive un moment? Ça commence, en termes simples, si on peut dire, de boucher plus ou moins l'urètre, hein, là où les urines doivent sortir.
Oui.
Donc, et on commence à avoir des signes. Par exemple, on veut uriner, il faut faire un effort.
Oui.
Et puis, le jet urinaire ne va plus très loin. Hein, et ce sont des signes, donc, comme on dit, obstructifs. Et parfois, quand on urine, à la fin, il y a plusieurs gouttes retardataires. Plusieurs gouttes. Hein, quoi qu'on a terminé, puis il y a des gouttes retardataires.
Qui restent encore.
Qui restent encore.
Lentement.
Hein, alors, il y a des signes aussi irritatifs. La fréquence augmente, surtout la nuit. On urine, et puis, peu de temps, on doit se réveiller encore, parce qu'on ne vide pas complètement la vessie.
Oui.
Et ce qu'on appelle donc les résidus post-mictionnels. Donc, quand on commence déjà à voir ces signes, il est dit qu'il vaut mieux consulter. C'est pourquoi je parle avant tout de la prostate simple, ou hypertrophie bénigne.
Oui.
Parce que, il n'y a pas de distinction entre les signes, donc les symptômes qui concernent donc l'hypertrophie bénigne de la prostate et les débuts du cancer de prostate. Il n'y a pas de distinction. Ce sont les mêmes signes.
Oui.
Ce sont les mêmes signes. C'est à la fin, quand le cancer, par exemple, est vraiment avancé,
oui,
qu'on a des signes de type métastatique, qu'on a des douleurs osseuses, on commence à faire des anémies, là ça veut dire que c'est déjà très avancé.
Alors, mais
docteur, au début, il est difficile de dire que de ces signes-là, c'est un cancer ou c'est une hypertrophie bénigne. Alors, ce sont les mêmes signes.
Voilà, docteur Diabeno, dans cette émission, les auditeurs appellent de partout à travers le pays pour poser des questions. Il y a déjà, nous avons déjà en ligne Kachunga depuis Béni. Bonjour.
Bonjour.
Oui, quelle est votre question?
Merci beaucoup. Je profite de cette occasion pour en fait demander à notre invité, parce que pas mal de la population de notre contrée ici ne sont pas informés de la prévention de la maladie. Je viens juste d'avoir ma réponse là-dessus, parce que le médecin vient nous préciser là-dessus.
Oui.
Parce que nous sommes dans le, je m'excuse un peu de la PMP, nous sommes dans le programme de prévention et lutte contre le cancer du sein chez les femmes ici à l'Est.
Oui.
De l'Association internationale des cancers du sein, parlons-en. Mais chose d'autre, quand nous entrons au terrain, il y a pas mal de hommes aussi qui nous demandent à propos des cancers de la prostate. C'est pour ça que nous sommes un peu limités. Je suis très fier de que vous puissiez aussi inviter notre invité.
Docteur Diabeno.
Je voulais aussi suggérer qu'on puisse mettre des stratégies là-dessus, parce que la population est dans l'ignorance de la prévention de la maladie.
Merci beaucoup, Kachunga. Merci beaucoup pour votre intervention, Kachunga, depuis Béni. Nous avons également Peter, depuis Issirou. Bonjour, Peter.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Oui, quelle est votre question?
Ok, j'ai deux questions au docteur. La première, comment est-ce qu'on peut éviter, les cancers de prostate?
Oui.
Et la deuxième conseil, est-il conseillé de se faire examiner même si on n'en souffre pas encore?
Voilà, docteur Dubé.
Et la dernière question, est-ce que le cancer de prostate est guérissable?
Merci, docteur.
Comme je ne note pas, si vous pouvez me dire la première question.
Oui, la première question, comment éviter les cancers de prostate?
Mais ça veut dire qu'il est difficile de vous dire, si vous faites ceci, vous allez éviter les cancers de prostate.
Mmh.
Ça c'est difficile.
Ou soit, quels sont les facteurs de risque?
Bon, ça veut dire que même les facteurs de risque, tout ce que je peux dire, c'est quoi? Ce qui a été constaté, les études qui ont été faites ont montré que le cancer de prostate, se développe plus dans la race noire. L'incidence est beaucoup plus élevée dans la race noire.
Mmh.
Deuxièmement, il a été constaté aussi, on suspecte une alimentation riche en graisse. Car dans certains pays là où l'alimentation est surtout végétarienne, on dit l'incidence du cancer des prostates ne semble pas très élevée. Et les mêmes personnes là qui vivent dans ces pays, quand ils vont dans un autre pays où l'alimentation est beaucoup plus riche, donc en graisse, on voit que l'incidence augmente. Et il a été dit aussi, si vous avez un parent, disons qu'un père ou un frère qui a souffert de cancer de prostate, vous avez aussi les risques
donc de développer la maladie.
On parle de, à ce moment, de facteurs un peu génétiques, si on peut dire. Ce qu'on a constaté aussi, que ce cancer semble être beaucoup plus élevé dans le milieu urbain qu'à dans le milieu rural. Hein? L'incidence des deux côtés, on trouve que c'est dans le milieu urbain. Mais quelle est la cause jusque-là? On n'a pas pu déterminer que c'est tel élément qui fait que les cancers des prostates se déclenchent.
Oui, certains disent que c'est lorsqu'on a une activité sexuelle trop intense, on finit par
ça n'a pas été prouvé du point de vue scientifique. Dire que ceux qui ont des rapports sexuels donc beaucoup plus intenses peuvent développer un cancer des prostates. Ça n'a pas été prouvé du point de vue scientifique.
Voilà, le deuxième volet de sa question, il veut savoir si le cancer de la prostate est guérissable.
Oui, c'est-à-dire que le cancer des prostates, on peut dire que est guérissable dans le cas où ce cancer est détecté à temps. Ça veut dire que si vous partez consulter de manière normale, vous faire un check-up, et que le médecin suspecte que vous pouvez avoir... L'examen simple chez le médecin, c'est quoi? Quand vous partez, il va faire un toucher rectal. Déjà, par le toucher rectal, il peut dire ici, il peut y avoir, parce que c'est un problème. Du cancer,
à
sentant une nodule ou autre chose. Et il fait des examens, le PSA, l'échographie. Donc, si c'est détecté à temps, au moment où c'est encore localisé, effectivement, il y a une opération qu'on fait, par exemple, on dit l'opération totale et radicale de la prostate. Il est dit que les gens qui sont opérés à temps, l'espérance de vie est la même que celui qui est qui a été opéré pendant une hypertrophie bénigne. L'espérance de vie semble être la même.
Voilà, d'ailleurs,
donc c'est à ce moment-là, si c'est localisé à temps, opéré à temps,
oui.
À ce moment-là.
D'ailleurs, il a demandé, est-il conseillé de faire des examens à temps, même si on n'est pas atteint de la maladie, est-il important d'aller faire des check-ups?
Effectivement, c'est-à-dire qu'on conseille, ne fût-ce qu'une fois par an, d'aller voir le médecin pour un petit check-up. Un petit check-up.
Mais il y a certaines informations que nous avons. Par exemple, en France, on organise des dépistages. À 40 ans, déjà, on demande aux hommes de passer pour aller faire le check-up.
Oui, c'est-à-dire que ça, c'est que je peux dire, en Europe, l'idée-là de dépistage comme systématique, on ne peut pas vraiment se baser sur ça. On dit que c'est au niveau, surtout des généralistes, des médecins généralistes, qui peuvent faire parfois se toucher, et puis faire le PSA et orienter parfois les malades au niveau du médecin urologue. Mm-hmm. Car, effectivement, on a constaté, ces dernières années, on dit l'augmentation de l'incidence du cancer des prostates. En fait, ceci est dû à... au fait que la technique maintenant donc d'investigation semble être beaucoup plus performante qu'avant.
Oui.
Parce que depuis 90, on a eu à doser maintenant l'histoire qu'on appelle le PSA, une glucoprotéine qui est liée à des cellules prostatiques. Ceci ne se faisait pas avant.
Oui.
Donc, effectivement, un homme qui a déjà, on dit, dépassé une cinquantaine d'années. Chez nous, il y en a qui disent même dans les 45 ans.
Oui.
Il peut une fois aller chez le médecin. Mm-hmm. Comme j'ai dit, il y a des examens simples, le toucher rectal. Et puis, souvent, il y a des questions
chaque
qu'on
année,
pose.
Chaque année, il faut le faire peut-être une fois par an.
Oui,
par exemple.
Il y a des questions qu'on pose pour savoir. Il y a tout un score là qu'on dit là. On dit comment est-ce que vous urinez la nuit, c'est combien de fois, tout ceci, cela.
Mm-hmm.
Après, il va faire les touchers. Et puis, il fera des examens complémentaires. Il peut faire l'écho. Et puis, le PSA bien après. Il a fait le toucher à temps de trois semaines, il y a aussi le PSA. Donc, ça c'est possible. Mais ce qu'il faut savoir est que il n'y a pas un élément qu'on doit dire, ne faites pas ceci pour ne pas avoir le cancer des prostates. Non.
Voilà.
Cancer des prostates se développe, peut se développer chez n'importe qui.
N'importe qui. Voilà, des questions de réaction composées de 081-890-6394. Nous avons déjà en ligne Loana depuis Mbandaka et Baudouin à Colosi. On les retrouve juste après ceci.
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité d'Okapi Service.
Loana depuis Mbandaka, bonjour.
Oui, merci, jeudi, et je profite de cette occasion pour vous souhaiter bon retour à Okapi Service.
Merci beaucoup, Loana. Votre question?
Oui, j'ai deux petites questions à poser au docteur. La première, j'aimerais lui demander de pouvoir me faire la différence qui existe entre les cancers de la prostate et celui du sang, dans les cancers du sang. Et la deuxième question, quand est-ce que le cancer de la prostate peut s'aggraver? Voilà ma deux questions.
Merci, Loana.
Questions, s'il vous plaît.
Merci, Loana, pour les deux questions. Baudouin, depuis Colosi, bonjour.
Bonjour, je dis Daniel Kachama.
Oui, Baudouin, vous avez la parole.
Ok, je voudrais bien poser la question au docteur. Il vient de dire tout à l'heure que la prostate joue deux rôles, entre autres la reproduction et le rôle antibactérien. Alors que à un certain moment, on voit que la prostate se développe pour arriver jusqu'au niveau du cancer, on dit que dû à l'infection. Alors que le docteur vient de dire que ça joue un rôle antibactérien.
Oui, Baudouin? Voilà, il se pose peut-être un problème au niveau de la ligne. Voilà, docteur, on va peut-être le retrouver, Baudouin, tout à l'heure. La question de Loana, comment les différences entre le cancer de prostate et le cancer de sang?
Mais ça, c'est pas la même chose. Le cancer du sang, on peut prendre un exemple de leucémie. Ça,
oui.
ça n'a rien à voir avec le cancer de prostate, une glande qui est bien connue.
Mm-hmm.
Donc, la différence, même du point de vue des symptômes, c'est pas la même chose.
C'est pas la même chose.
La prostate, c'est lié à des éléments, le patient va avoir des difficultés, comme j'ai dit, du côté émotionnel, du côté du cancer du sang. Vraiment, il n'y a pas de corrélation entre cancer du sang et cancer du prostate. Il n'y a vraiment pas de corrélation.
Voilà, Augustin, depuis Kindu, est en ligne. Bonjour.
Bonjour, je dis Kachama.
On vous écoute, Augustin.
Ok, moi, j'ai des questions. Ma première question, c'est de poser au docteur, puisque ici, on vous informe quand il souffre des infections sexuellement transmissibles un jour qui sera tombé dans la cancer de prostate. Mmh. Et quand tu fais des masturbations, un jour aussi tu tomberas dans la cancer de prostate.
Voilà, merci docteur. Est-ce que les MST
peuvent c'est-à-dire qu'il y a des études qui ont été faites. Certaines personnes ont dit que les infections donc récidivantes, effectivement récidivantes, mm-hmm. des voies urinaires peuvent prédisposer au cancer des prostates. Ça, il y a certaines études mm-hmm. qui ont parlé de ça, mais jusque-là il n'y a pas d'éléments palpables pour dire comment est-ce que cette infection peut faire que
qu'on en arrive là.
Qu'on en arrive donc au cancer des prostates. Il y a des études qui ont été faites dans ce sens-là.
Oui.
Bon, en ce qui concerne
la masturbation,
le problème de la masturbation, non, la masturbation n'a aucun effet pour dire que la masturbation peut conduire donc au cancer des prostates. Parce que il y a des éléments un peu contradictoires. Hein. Oui. Il y en a qui disent le fait que quelqu'un soit en abstinence pendant longtemps, il y a la congestion qui se fait au niveau des vésicules séminales et au niveau de la région prostatique qui peuvent entraîner certaines notions de prostatisme, difficulté pour l'uriner. Il est mieux parfois de vidanger parce qu'il a été fait, le corps a été fait de façon naturelle que ces histoires ne restent pas toujours enfermées.
Oui.
Ça, c'est connu. Alors, bon, il y en a qui disent que ceux qui n'ont pas la possibilité, il n'a pas une épouse, il n'a pas ceci. Mm-hmm. Parfois, ils conseillent parfois des petites masturbations pour vidanger cela. Mais alors, le lien maintenant entre masturbation et cancer de prostate, j'ai vu certaines dans une revue où certains essayaient de suspecter. Mais ce que je vous dis, selon les derniers éléments, jusqu'à maintenant, on ne peut pas dire avec certitude que, regardez, si vous faites ça, vous allez attraper le cancer de prostate.
Oui.
Ça, c'est rien. C'est qu'il y a surtout, comme j'ai dit, on a suspecté plus une alimentation qui est riche en graisse. Ça a été suspecté.
Voilà, les restes là, c'est juste des suppositions.
Il y a des études qui continuent. Hein. Oui. Il y a des études qui continuent dans beaucoup de pays. Ils ont des laboratoires performants.
Oui.
On veut savoir au juste ce qui se passe.
Voilà, Baudouin, on va encore retrouver Baudouin de Pocolési. Baudouin, vous êtes de nouveau en ligne, bonjour.
Bonjour, Dirk Daniel Kassama.
Oui, allez-y.
Oui, je voudrais poser quelques questions au docteur. Je viens de dire tout à l'heure que la prostate joue deux rôles, entre autres la reproduction et un rôle antibactérien. Alors qu'à un certain moment, lorsque quelqu'un est malade de la prostate, on dit qu'il a une infection. En quoi la prostate joue-t-elle le rôle d'antibactérienne? Et puis, il semble aussi que l'homme qui a une activité sexuelle intense pendant sa jeunesse, lorsqu'il va atteindre l'âge de 50 ans, il est prédisposé à développer la prostate. Est-ce vrai ou faux?
Merci pour les deux questions, docteur Diabino.
Ça dit que le rôle en ce qui concerne la reproduction, je vous ai dit, car les éléments qu'on trouve dans le sperme normal chez l'homme, quand il éjacule, il y a au moins 20 à 30% qui proviennent effectivement des glandes prostatiques. Donc, si ces éléments ne sont pas là, il est difficile que la personne puisse avoir donc un sperme de qualité normale. Ça, c'est connu.
Oui.
Alors, quand je parle de facteurs antibactériens, d'éléments donc antibactérien,
oui.
C'est dû au fait que parmi ces facteurs, on trouve le zinc. Donc le zinc a un rôle antibactérien. Mais il n'est pas dit que maintenant, le fait que la prostate est là, on ne peut pas faire l'infection. Vous savez, à un moment, dans notre organisme, bon, c'est l'élément qui concerne les microbes peut prédominer là où il y a la résistance. Et on développe quand même la maladie, effectivement. C'est qu'il a dit, c'est vrai qu'il y a une maladie qu'on appelle prostatite, qui existe, quoi. Une infection de la prostate.
Alors que la prostate elle-même combat les microbes.
Elle-même, malgré que le zinc est là.
Elle peut être vaincue aussi par les microbes. Mais
bien sûr, bien être vaincue. Il y a la prostatite aiguë, la prostatite chronique, la prostatite. Il y a, donc là, on n'entre pas dans ces détails-là.
OK.
Oui.
Vous êtes au centre de toutes les questions. Ils sont la solution possible à vos problèmes. Radio Okapi réfléchit avec vous sur la solution. En direct, avec toute l'équipe de Parole aux auditeurs. Parole aux auditeurs. Parler, nous transmettons. Proposer, nous discutons. Parole aux auditeurs, le lundi à vendredi dès 11h et mercredi à 10h, heure de Kinshasa. Prenez la parole et nous vous écoutons. C'est sur Radio Okapi.
Okapi Service reçoit aujourd'hui Dr Diabé Notombé, urologue à l'hôpital général de Kinshasa. Oui, docteur.
Je voulais dire aussi autre chose. Oui. Il est dit que si un homme subit la castration avant la puberté,
oui,
il sera difficile que cet homme développe donc l'hypertrophie même de la prostate. Hein? La castration, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ou bien de façon simple, disons, on fait une orchidectomie.
Ça veut dire on enlève les testicules. Hein.
Ou encore on fait la pipectomie, on enlève seulement la pulpe. Ou encore on peut faire une castration de nature médicale. Ça empêche donc la production de la testostérone. On dit que si ceci est fait avant la castration, oui, avant plutôt la puberté, il sera difficile à cet homme donc de développer un cancer. Non, pas un cancer, une hypertrophie donc de la prostate.
Oui.
Mais alors, je ne sais pas s'il y a combien de gens qui peuvent accepter qu'on leur fasse la castration. Ça veut dire tu deviens impuissant, tu ne peux plus faire de rapport sexuel, tu peux, oui, à l'âge de avant 15 ans. Vous voyez, si on doit castrer tous les hommes, alors ça va être encore un problème. Quoi.
Ça, c'est encore un autre problème. Oui.
C'est ça.
Voilà. Et Baudouin est encore revenu sur la question. Un homme qui a eu une activité sexuelle intense dans sa jeunesse, peut-il être prédisposé à développer?
Mais bon, là, vous savez, il y a eu d'autres, parce qu'il y a des études qui ont été faites.
Hein? Oui.
Ont montré quoi? Il y a des gens qui vivent dans certains pays où on dit que l'homme peut avoir 3, 4 ou 5 femmes, de façon même officielle.
Oui, un polygame.
Et c'est Non, mais il y a des pays où on autorise ça, cette polygamie, de façon normale.
Oui.
Hein? C'est un pays arabe, par exemple. Bon, cet homme est obligé donc de satisfaire toutes ses épouses.
Oui.
Mais on n'a pas constaté une incidence élevée d'hypertrophie de la prostate dans ces pays-là.
Donc, il n'y a pas de lien.
Ah oui, c'est pour ça qu'on dit qu'on ne doit pas vraiment mettre de lien sur le fait qu'il a fait une activité sexuelle normale. C'est pour cela qu'il a développé. Il y a eu des gens qui ont vécu même dans des monastères, une vie vraiment des moines, et qui développent quand même l'hypertrophie de la prostate.
Voilà. Donc, vous avez dit, ça dépend beaucoup plus de l'alimentation. Ouais. Et Robert, depuis Lubumbashi, est en ligne. Bonjour.
Bonjour, monsieur.
On vous écoute, Robert.
Oui, je vais poser la question au docteur. Je dis, j'ai 35 ans.
Oui.
Souvent, je fais à peu près 4 fois, je me réveille 4 fois pour faire les quoi.
Pour aller aux toilettes.
Oui. Alors, et pendant la journée aussi, j'ai des douleurs au niveau de lorsque j'ai fait une mission. Et puis, je voudrais savoir... ce n'est pas une forme de prostate ou bien...
C'est-à-dire qu'il faut toujours consulter, car le fait d'uriner beaucoup, il n'y a pas que la prostate qui peut entraîner cela. Il peut y avoir une irritation, on ne sait pas, on peut avoir une tumeur vésicale, on peut avoir une infection urinaire, on peut avoir une autre obstruction, telle qu'hypertrophie du col de la vessie, un début de sténose de l'urètre, ou encore... Je ne parle pas de la glycémie élevée due au problème de diabète. Donc, ce qui est conseillé quand on commence à avoir des pareils éléments, on urine beaucoup, et puis quand on urine parce qu'on a mal, est-ce qu'il n'y a pas d'infection, il n'y a pas de ceci, tout ça.
Il faut aller carrément voir
un médecin. On consulte pour qu'on puisse faire des examens et déterminer la part des choses. Quoi.
Voilà.
Ça peut aussi être effectivement une hypertrophie de la prostate, mais c'est mieux de consulter.
De consulter pour être beaucoup plus sûr.
Le médecin peut vraiment décanter les choses.
Voilà, François Mouemedi, depuis Kindou, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste.
On vous écoute, François.
J'ai des préoccupations à poser au docteur.
Oui.
Je voudrais savoir s'il y a une corrélation entre la personne qui souffre de la diabète et du cancer des prostates. Est-ce que celui-là peut-il être... il peut tomber de cette maladie?
Voilà, le deuxième volet de votre question.
Et la deuxième préoccupation, la personne obèse peut aussi tomber de cette maladie.
Merci pour... merci beaucoup, docteur Diabé. Non, quelqu'un qui souffre de diabète.
C'est-à-dire que...
Il n'y a pas de lien.
Il n'y a pas de lien entre diabète et cancer de prostate. On peut faire cette maladie de façon concomitante. Hein.
Mm-hmm.
On est diabétique et on développe ou bien une hypertrophie bénigne de la prostate ou encore une hypertrophie de nature maligne comme le cancer.
Oui.
Ça n'a rien à voir. C'est pas le diabète qui induit cela. Mmh. Ça n'a rien à voir. Et puis une personne obèse, c'est la même chose. Une personne obèse, il peut développer une hypertrophie bénigne de la prostate, comme il peut développer aussi une hypertrophie de nature maligne.
Donc, parce que la personne a déjà beaucoup de graisse dans son corps.
Oui, mais il n'y a pas aussi. Oui. On n'a pas constaté que ceux qui sont obèses, c'est eux qui font le plus de cancer de prostate. Non.
C'est ça. Oui. Voilà, et docteur, bon, parlons maintenant de la prévention. Qu'est-ce qu'il faut faire?
La prévention, le seul conseil qu'on peut dire est qu'il faut consulter son médecin.
Hein? Une fois par an.
Mais une fois par an, parfois, une fois par an. Surtout quand on atteint l'âge de 50 ans. Il ne faut pas demander à quelqu'un qui a 20 ans, 30 ans de commencer à aller consulter les médecins pour les problèmes d'hypertrophie de la prostate. Hein?
Oui.
C'est quand on a 50 ans, on a dépassé 50 ans, on dit on peut consulter son médecin. Ne fût-ce qu'une fois par an. Et surtout quand on commence à présenter certains symptômes, comme j'ai dit ici. La dysurie, ça veut dire on veut uriner, il faut faire un effort. Et puis on constate que le jet urinaire ne va plus très loin. Et puis on constate aussi quoi? Quand on urine à la fin, il y a des gouttes retardataires chaque fois là. Comme les gouttes retardataires. Et autre élément, la nuit, on commence à se réveiller plusieurs fois. Mais quand on va uriner, ce sont des petites quantités qui sortent. Autre élément, la couleur des urines qui change comme s'il y avait du sang. Hein? Ça veut dire qu'on peut faire une hématurie. Hein? Donc,
éviter quand... aussi de consommer les aliments avec trop de graisse. Hein?
Oui. Disons ça. C'est-à-dire que ça, là, les aliments avec trop de graisse, il y a beaucoup de pathologies. On te conseille. Hein? Oui. Beaucoup de pathologies. Hein. Alors, il y a un autre signe, c'est quoi? Ce qu'on appelle miction impérieuse. Ça veut dire que quand on a envie d'uriner, par exemple, vous êtes là, j'ai envie d'uriner. Si je vous dis... Non, patientez, vous dites non. Si vous patientez, ça sort directement.
Ça sort tout de suite.
Tous ces signes-là, qu'on appelle les signes de prostatisme, doivent conduire quelqu'un, en tout cas, à consulter vite son médecin pour qu'il puisse faire des investigations.
Voilà, docteur Diabeno Tombé, urologue à l'hôpital général de Kinshasa. Je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie. On est là pour essayer de rendre service à la population, leur expliquer ce qu'il faut faire ou ne pas faire.